premier portrait de femme de notre matrimoine par Jacqueline Engrave, c'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, encore une femme exceptionnelle dont vous allez nous parler.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler de la vie exceptionnelle d'une femme exceptionnelle, ouvrière du Nord et résistante, qui s'appelle Martha Desrumaux, qui est née le 8 octobre 1897 à Comines, dans le département du Nord, près d'Hazebrouck, à la frontière belge. Elle est l'avant-dernière d'une famille de 7 enfants. Sa mère ne peut travailler, étant amputée d'une jambe. À 9 ans, en 1906, elle perd son père, victime d'un accident mortel, dans l'exercice de sa fonction de pompier volontaire. Donc elle se retrouve, si petite, à devoir travailler pour survivre. Elle est d'abord placée comme bonne d'enfant ou bonne à tout faire dans une famille bourgeoise de Lille, mais elle s'enfuit rapidement et revient à Comines, où elle est embauchée à 10 ans dans une usine textile. À 10 ans. À l'époque, la loi ne permet pas aux enfants de moins de 12 ans d'être employés, mais la pratique est commune de faire travailler à l'usine des enfants encore plus petites. 3 ans plus tard, à 13 ans, elle adhère à la CGT, ne sachant encore ni lire ni écrire. Elle est analphabète. Elle conduit cependant victorieusement sa première grève à 20 ans, 1917, à Lyon, où elle a été évacuée pendant la Première Guerre mondiale. Elle obtient notamment, lors de cette grève, une revalorisation salariale pour les ouvrières textiles lyonnaises. Pionnière du féminisme, elle exige pour les femmes un salaire égal à celui des hommes, comme d'autres avant elle et comme d'autres encore aujourd'hui. Elle rejoint le Parti communiste français à sa création en 1921, où elle est remarquée par les cadres du parti. Dans ce contexte, elle part à Moscou en 1929 et là, elle fait une belle rencontre en la personne de Clara Zetkin, la créatrice de la Journée internationale pour les droits des femmes, les 8 mars de chaque année. Elle est grande animatrice de la stratégie du Front populaire dans le Nord. Elle est la seule femme présente aux négociations de la délégation ouvrière qui signe les accords dits de Matignon, gagnés par le Front populaire le 7 juin 1936. Elle vient à cette négociation avec les fiches de paye des femmes, démontrant par les chiffres combien ces femmes sont sous-payées, sous-évaluées. Le Front populaire a certes produit des avancées sociales importantes, on connaît les congés payés, la semaine de 40 heures par exemple, mais avec encore un abattement féminin, considérant sans doute que le salaire féminin n'est qu'un salaire d'appoint dans une famille, ce qui est encore le cas aujourd'hui dans beaucoup de familles. Sur le plan privé, elle a un fils en 1937 avec Louis Mangine, qu'elle épouse en 1938. Mais la répression anticommuniste de septembre 1939 l'oblige à se réfugier pendant un temps en Belgique. Le 27 juillet 1940, elle déclenche un grand mouvement de grève chez les mineurs, la plus grande grève en Europe sous l'occupation allemande. Elle est aussi le pilier d'un vaste réseau de résistance pour préparer des sabotages. En juillet 1941, la répression gouvernementale anticommuniste est féroce. Le patronat fournit les noms des militants et militantes. Dénoncée par le préfet du Nord, Fernand Karl, elle est arrêtée par la Gestapo à 4 heures du matin, le 26 août 1941, alors qu'elle venait voir son fils. Elle est emprisonnée, puis déportée à Ravensbrück, le camp des femmes, le 28 mars 1942. Là, avec Geneviève Antonioz de Gaulle et Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle y organise le soutien des plus faibles d'entre elles. Ces femmes travaillent 9 heures par jour. Elle leur conseille, lorsqu'elles sont malades, de ne pas demander à aller à l'hôpital, car cela signifiait en réalité aller au four crématoire. Elles essayaient de les protéger. Elles sabotent les uniformes allemands qu'elles doivent confectionner en les infestant de poux dans les coutures. En 1945, les Allemands acceptent un échange et Martha rejoint Paris avec la Croix-Rouge en avril 1945. Son fils a 8 ans. Elle est restée 4 ans absente. Elle a un cri, je cite, « Je suis Martha Desrumaux, les nazis ne m'ont pas eue. » Mais quand même, atteinte du typhus, affaiblie, elle intervient devant 2500 cheminots et mineurs pour témoigner des horreurs du système concentrationnaire. Aux élections municipales d'avril 1945, où, on le sait, les Françaises votent pour la première fois dans l'histoire de France, elle est élue adjointe et elle est, avec Lucie Aubrac, beaucoup plus connue qu'elle, notamment l'une des 16 premières femmes siégeant à l'Assemblée nationale. Elle est malade du typhus et des séquelles des tortures endurées, mais elle continue de se battre pour l'égalité des salaires, l'accouchement sans douleur, l'instruction des ouvrières. Elle dit « Il n'y a pas de petites revendications, par exemple le temps pour aller aux toilettes, le temps de pause. » Elle dit aussi « Il faut rester froide dans le cœur pour que le cerveau réfléchisse. » Et elle dit encore « La misère et la peur règnent, il est temps que nous apprenions à relever la tête. » À partir de 1960, Martha s'éloigne à l'arrière-plan de la lutte sociale au profit d'une nouvelle génération. Malade, elle déménage avec son mari en Provence, à Évenos, près de Toulon, mais elle continue de faire des conférences sur la place des femmes dans notre société. Son mari et elle décèdent tous les deux en 1982, elle a 85 ans. Alors, figure de la résistance, survivante des camps de concentration avant de devenir à la Libération l'une des 16 femmes parlementaires, Martha Desrumaux, si injustement invisibilisée, a incontestablement marqué l'histoire des luttes sociales et féministes par son action permanente toute sa vie. Pourtant, elle tombe dans l'oubli après sa mort en 1982, tout comme les images d'archives des ouvrières de Comines qui pourtant rendent bien compte de conditions de travail très dures, ce qui était au cœur des combats quotidiens de Martha. Son œuvre est immense, son héritage aussi, qui fait partie de notre patrimoine. On ne peut qu'admirer la force de son engagement, une détermination puisée à une forme d'espérance pour un avenir meilleur pour les femmes, pour les ouvrières du textile. Elles aussi, ces ouvrières du textile, les grandes oubliées des manuels d'histoire. On se demande pourquoi, je pose la question. Alors, pour terminer, en 2019, c'est-à-dire tout à fait récemment, la ville de Paris a donné le nom de Martha Desrumaux à un jardin dans le 12e arrondissement. Et toujours en 2019, le 15 novembre 2019, à Lille, le collège Matisse a changé de nom, il est devenu le collège Martha Desrumaux. Et il y a une rue à Évenos qui porte son nom depuis mars 2020. Donc depuis 2 ou 3 ans, il y a une forme de reconnaissance de son action.
Donc qui est venu de qui on ne sait pas.
Non, il y a aussi des films qui ont été réalisés sur elle, notamment un documentaire qui s'appelle « Le souffle de Martha » qui est passé sur la chaîne 13 LCP récemment. Un documentaire qui date de 2020. Oui, depuis quelques années, on s'intéresse à elle. Mais moi, je me demande pourquoi elle est tombée dans l'oubli depuis 1982 et pourquoi on ne parle pas des ouvrières textiles alors qu'on parle beaucoup des mineurs de cette époque.
Eh oui. Si vous vouliez revenir sur quelques mots sur le Front populaire.
Alors, le Front populaire, pour les plus jeunes d'entre nous, ça fait partie de l'histoire de France. C'est une coalition de plusieurs partis de gauche, dont le Parti communiste français, avec Léon Blum à sa tête. C'était de 1936 à 1938, et dont on retient essentiellement aujourd'hui ce dont je vous ai parlé, la création de ce qu'on appelle les congés payés, c'est-à-dire la possibilité de partir en vacances sans que le salaire soit amputé, et la semaine de 40 heures. Voilà ce que c'est que le Front populaire en quelques lignes, en quelques mots, bien sûr.
Merci beaucoup Jacqueline Engrave. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre portrait de femme de notre patrimoine. On rappelle que ces émissions sont rediffusées régulièrement sur notre antenne et sont en ligne bien sûr. On les retrouve dans nos émissions sur Fréquence Mistral Digne. Elles sont aussi rediffusées donc le même mardi à 16h et le jeudi à 17h, ainsi que le dimanche midi. Il y a toute la série qui a été rediffusée. Merci Jacqueline Nengrave, à la semaine prochaine.
Merci à vous, merci à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.